Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Bien le bonjour, nous sommes en direct entre deux réveillons.
Bonsoir,
et comment?
Merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
C'est un joli mot qui convoque des images de gagnants au loto ou de trèfle à quatre feuilles. La chance, puisqu'il faut l'appeler par son nom, est notre sujet du jour. Mais que diable vient-elle faire dans l'instant M? Eh bien, c'est le nom d'une association qui agit pour plus de diversité dans les médias. Par exemple, en aidant de jeunes gens issus des classes populaires à intégrer les écoles de journalisme. Car les rédactions ne ressemblent pas à la France, quels que soient les critères sur lesquels on se fonde. Ce reproche est ancien, il est récurrent, mais il a repris du poil de la bête cette année avec la colère des gilets jaunes. Le public cherche sans doute dans les médias un miroir de la société française, et ce miroir est déformant.
L'instant M. Dorothée Barba sur France Inter.
Bonjour Marc Epstein.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes journaliste, ancien grand reporter au magazine L'Express et vous êtes le président de cette association créée en 2007, La Chance. Il est étonnant ce nom quand on y songe, parce que votre terrain d'action, ce sont les déterminismes sociaux, l'endogamie dans les médias. Ce n'est en rien une affaire de chance ou de hasard.
Non, c'est sûr. Le nom originel de l'association, c'est La Chance au concours. C'est un nom qui a été trouvé un soir dans un bar parce qu'on était désespérés, qu'on n'arrivait pas à capter le bon terme. Et La Chance au concours, puisqu'on s'est longtemps appelé La Chance au concours, c'est avant tout une prépa qui est gratuite, qui est aujourd'hui assortie d'aide financière, environ 1000 euros par étudiant. Et on donne un coup de main, on épaule, on accompagne des étudiants qui ont tous en commun d'être soit boursiers, soit en situation de handicap.
Voilà, donc vous les accompagnez pour les concours, mais vous faites aussi bien d'autres choses en amont, notamment dans les collèges et dans les lycées.
C'est ça, on intervient dans les collèges, dans les lycées, surtout dans les lycées d'ailleurs. C'est-à-dire que des journalistes, nos journalistes bénévoles, et surtout nos anciens étudiants, qui entre-temps sont devenus journalistes professionnels, ils retournent dans leurs établissements d'origine, dans leurs lycées, dans les collèges par lesquels ils sont passés, et ils peuvent parler à la première personne. Voilà, moi je suis Albert machin, et quand j'étais en 4e 3 à votre place, j'étais là-bas au fond de la classe, et puis après j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et aujourd'hui je suis journaliste. Et ils peuvent parler à la première personne du singulier de leur parcours, de ce que c'est que d'être journaliste, du travail de journaliste et du travail des médias en général.
L'ambition, c'est bien d'ouvrir la porte des médias à ceux et celles qui en sont exclus, Marc Epstein.
Oui, exclus, ils sont exclus, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne sont pas suffisamment nombreux. Vous parliez des gilets jaunes tout à l'heure, ce vêtement adopté par les gilets jaunes, c'est-à-dire le gilet jaune. Pourquoi il a été adopté? Parce que ils estimaient, les gilets jaunes, et derrière les gilets jaunes, il faut comprendre les habitants des quartiers périphériques, mais aussi les habitants des zones rurales isolées, c'est-à-dire quand même un bon morceau de la France. S'ils se mettent, il y a un an environ, à porter des gilets jaunes, c'est parce qu'ils s'estiment invisibles. Ils s'estiment pas assez perçus, pas assez écoutés, en particulier par la politique, par les politiques, mais pas seulement. Je pense que c'est aussi un message qu'ils envoient aux médias.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse Monia Cachemir chez Les Terriens du Dimanche, l'ancienne émission de Thierry Ardisson sur C8.
Regardez-nous, il n'y en a pas un autour de cette table qui gagne moins de 2000 euros. Depuis tout à l'heure, on parle de pouvoir d'achat, on parle de ceux qui gagnent le SMIC, de ceux qui gagnent moins. On parle d'eux, sans eux. Eux, ils nous regardent, ceux qui galèrent. Ils sont dans le public. La fracture sociale, elle est là. J'imagine que, combien de gens, levez la main, le nombre de gens qui galèrent, qui gagnent le SMIC et qui galèrent, qui ont peur de Noël. On leur donne pas la parole. Il y en a pas un qui veut venir, qui veut nous parler de ça, parce que là, on est entre bourgeois, entre intello, on a fait
Sciences Po. Excusez-moi, madame, on n'est pas tous pareils.
Je suis désolée. Là, on compare ça à mai 68, mais c'est la révolution. Oui. C'est la révolution du tiers état. Oui. C'est la révolution de ceux qui,
Attendez, vous vous trompez, madame. Alors.
Je le disais, ce reproche du manque de diversité dans les médias, il est ancien, il est récurrent, mais il a repris de la vigueur cette année à l'occasion de, à la faveur de la colère des gilets jaunes. Diriez-vous que c'est toujours le même, ce reproche, ou est-ce qu'il a été réinventé, renouvelé par ce mouvement social.
Oui, je pense qu'il y a... quand l'association a été créée il y a 13 ans, moi j'avais des amis, très gentils, hein, c'est pas le problème, qui me disaient, mais au fond, est-ce que c'est vraiment nécessaire cette histoire? Il y a des concours d'entrée aux écoles de journalisme.
Et le concours, c'est le mérite par définition.
Et le concours, c'est le principe républicain, c'est tout ça. Sauf que c'est faux, c'est de plus en plus faux. Il y a, depuis la création de l'association, il n'y a pas de rapport entre ceci et cela, hein, mais il y a une prolifération de prépas payantes. Vous avez aujourd'hui, en France, par exemple, une prépa donc qui accompagne, qui aide les étudiants à préparer les concours des écoles de journalisme. Elle dure 3 ans. Et tous les ans, on vous demande 7 000 euros. C'est-à-dire que c'est 21 000 euros sur 3 ans. Pour quoi faire? Afin d'être en meilleure position pour passer les concours. Vous avez d'autres prépas qui sont évidemment moins longues, moins coûteuses, mais tout ça, ça creuse l'écart. Vous n'avez pas... Tout le monde en France n'a pas des parents cadres, CSP+, etc., qui peuvent vous aider à préparer ces concours, à faire ces études qui sont relativement longues. Et il y a aujourd'hui un problème supplémentaire qui est la précarité. La précarité qui caractérise les débuts de carrière des journalistes. À Radio France et ailleurs, vous connaissez bien ça. Les journalistes en début de carrière, à Radio France par exemple, ils sont au planning, donc ils vont travailler de temps à autre, mais c'est épisodique.
Une succession de CDD.
C'est ça. Et il y a donc un souci, si vous voulez, si pour devenir journaliste, on ne peut qu'être issu d'un milieu où...
Avec des parents qui aident, voilà, derrière. Les écoles de journalisme ont-elles fait des efforts depuis 10 ans, à votre avis, Marc Epstein, pour ouvrir et pour lutter contre l'endogamie sociale?
Oui, je pense que les écoles sont plus conscientes aujourd'hui. Elles ont toujours été conscientes, mais dans un premier temps, je dirais que les manifestations violentes dans les quartiers périphériques en 2005, et puis plus récemment, évidemment, l'explosion des Gilets jaunes, ça a réveillé en quelque sorte la conscience des écoles de journalisme et des médias d'une manière générale qui pèsent sur les écoles de journalisme pour que les promos qui sortent des écoles de journalisme soient plus diversifiées.
Les écoles, pour autant, héritent d'inégalités qui sont préalables. Elles sont en bout de chaîne après le collège, après le lycée, après l'université. Souvent, ce ne sont pas elles les principales fautives, finalement.
Non, on a un vrai souci en France, si vous voulez. On parle de l'école, ce creuset de la République, ce creuset républicain. On oublie, et pourtant les enquêtes annuelles sont déprimantes à ce sujet, on oublie que l'école en France est une des pires en termes de reproduction des élites existantes. Je veux dire par là que en France, beaucoup plus que dans l'écrasante majorité des pays qui sont comparables à la France en termes de développement économique. En France, si vous êtes né ouvrier, si vous êtes né, si vous êtes, comme on dit, de conditions modestes...
Vous le resterez.
Eh bien, il y a de fortes chances que pendant au moins 6 générations, disent les statistiques, vous le resterez. Et là, il y a un vrai problème. Et vous avez raison, de ce point de vue, les écoles de journalisme, elles sont en bout de chaîne.
Alors, quels sont, pour vous, Marc Epstein, les critères prioritaires dans le combat pour plus de diversité dans les médias aujourd'hui? Est-ce que c'est la couleur de la peau? Est-ce que c'est l'origine sociale, l'origine géographique, le handicap, l'âge? On pourrait ainsi allonger à l'infini la liste des critères pour la diversité.
Oui, en effet, et tous les critères que vous venez d'énumérer, ce sont nos critères à nous. Quand je dis critères...
Il en faut bien un qui soit prioritaire.
Oh, je suis pas sûr. La diversité sociale, en tout cas, elle entraîne le reste. Quand on a créé La Chance, on s'est demandé comment faire pour qu'il y ait des promos d'écoles de journalisme. On peut devenir journaliste sans être passé par une école, hein, mais pour ce qui est des écoles de journalisme, comment faire pour que les promos soient plus diverses? Le mot diversité en France, il est piégeux, hein. Si je vous dis que que dans mon entreprise, il y a pas mal de gens issus de la diversité, vous allez tout de suite comprendre à travers ce que je dis qu'il y a des couleurs de peau différentes. Vous n'allez pas vous dire, ah, il doit y avoir des Américains, il doit y avoir des Néo-Zélandais. Il est piégeux, le terme de diversité. On a adopté, nous, comme critère à La Chance, celui des boursiers, et à travers le critère des boursiers, qui est imparfait, hein, qui n'englobe pas tout. Mais vous apercevez que, malgré tout, vous voyez des gens qui ont des couleurs de peau différentes et qui peuvent aussi, il ne faut pas l'oublier, être en situation de handicap.
Le problème de la diversité sociale, Marc Epstein, c'est qu'elle se voit beaucoup moins sur un plateau télé que la diversité des couleurs de peau.
C'est sûr, moi je suis britannique. J'ai grandi au Royaume-Uni dans les années 60. Et dans les années 60, quand on écoutait la BBC, il y avait un accent BBC, qu'on appelait d'ailleurs « Queen's English ». C'était l'anglais de la reine. Vous écoutez la BBC aujourd'hui, vous savez, je suis comme les Maghrébins qui ont des paraboles sur le toit ou sur leur balcon et qui regardent en direct les chaînes marocaines, tunisiennes. Ben, moi aussi, j'ai une parabole sur le toit et je regarde en direct les chaînes anglaises. Et quand je les regarde, je vois quoi? D'abord, j'entends quoi? J'entends des accents du Pays de Galles, des accents de l'Écosse. J'entends aussi, parce que en anglais, on a ça, j'entends des accents d'origine sociale. Et je vois le spécialiste de la défense qui est en fauteuil roulant. Je vois un des correspondants à Washington de la BBC qui est aveugle. Bref, j'ai une représentation mentale de la société à laquelle j'appartiens si je suis britannique, qui est infiniment plus diversifiée
que la France.
Que quand je regarde les médias audiovisuels français.
On entend pour autant, c'est un reproche au Royaume-Uni, que la BBC est beaucoup trop Oxbridge, mélange de Oxford et Cambridge, les deux universités britanniques. C'est aussi un reproche qu'on fait à la BBC outre-Manche.
Oui,
trop élitiste, pas assez diverse.
Alors, on peut faire ce reproche. Il était particulièrement pertinent quand j'étais tout petit, dans les années 60 et peut-être 70. Ça a beaucoup changé. Le spécialiste de l'économie à la BBC s'appelle Faisal Islam. Vous avez une des présentatrices, c'est impensable en France. Moi, j'ai pas d'avis d'ailleurs à ce sujet, mais simplement pour information. Une des présentatrices joker, c'est-à-dire qu'on la voit de temps à autre.
Remplaçante.
Du journal du soir sur Channel 4 est voilée. C'est impensable en France. Et encore une fois, je n'ai pas d'avis là-dessus. Simplement, ça, c'est une figure qui appartient à la société. Au même titre que le spécialiste de la défense qui est en fauteuil roulant, etc., etc.
On entend bien dans ce que vous dites que la France peut beaucoup, beaucoup mieux faire. Est-ce qu'il y a pour autant à vos yeux une rédaction modèle en matière de diversité en France? Un média qui ferait plus ou mieux que les autres?
Le blanc est patent. Moi, je dois vous dire, ça existe peut-être. En tout cas, je ne le vois pas comme téléspectateur. Je ne l'entends pas comme auditeur. Et je travaille à ça, à mon modeste niveau, avec les 80 étudiants boursiers qu'encore une fois, nous accompagnons tous les ans.
Et pourtant, l'association existe depuis 13 ans, vous le disiez, donc les journalistes, ils doivent être en train de travailler aujourd'hui, ceux que vous avez accompagnés au début.
Oui, bien sûr qu'ils travaillent, et ils travaillent un peu partout. Vous les lisez.
Ils ne présentent pas encore le JT, c'est ce que vous dites.
Ils ne présentent pas encore le JT, mais ils sont encore un peu jeunes pour ça, et évidemment que notre espoir, c'est que à terme, ils soient en position de recruter à leur tour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un enjeu, c'est pas un enjeu corporatiste, ce que je suis en train de dire. Dans une démocratie, c'est très important. On est dans une société aujourd'hui où les moins de 20 ans en particulier ont comme première source d'information, on peut le regretter, on est à France Inter, mais ce n'est pas France Inter, ce ne sont pas les médias, ce sont les réseaux sociaux. Et il y a une défiance qui est largement partagée en France à l'égard des journalistes. Si les journalistes demeurent en grande majorité des enfants de cadres, des enfants de profs, ce que je redoute, c'est qu'à terme, il n'y ait que des enfants de cadres et des enfants de profs pour écouter les médias et que les autres s'en remettent davantage aux réseaux sociaux.
A-t-on un constat précis en la matière? Est-ce qu'on peut chiffrer l'endogamie sociale chez les journalistes aujourd'hui en France?
Pas que je sache.
On a un problème de statistiques, Marc Epstein. Et là, c'est le serpent de mer des statistiques ethniques qui va revenir. Mais comment compter sans savoir?
Bien sûr, il y a un problème qui est propre à la France, qui est un problème d'ordre historique pratiquement. Nous sommes tous en France, et c'est formidable d'ailleurs sur le papier, nous sommes tous des citoyens de la République, nous sommes héritiers de la Révolution, 1 égale 1, et par conséquent, nous devons être aveugles aux différences. Nous sommes mal placés en France pour penser la différence, pour penser celui qui est différent de moi, qui mène une vie différente de la mienne.
Vous souhaiteriez-vous qu'on ait le droit de compter les Noirs, les Arabes, les Asiatiques en France?
Je ne sais pas s'il faut compter. Il y a quelque chose de désagréable dans l'idée de compter. On n'est pas dans une société où il faut compter. En revanche, célébrer la différence. C'est avant tout un état d'esprit.
Mais c'est compliqué de faire un constat sans chiffres.
Oui, mais c'est avant tout un état d'esprit. Quand vous regardez le baromètre annuel de la diversité du CSA, faut quand même le regarder de près. Si vous enlevez les séries américaines, là on parle plus seulement de journalistes et d'informations, hein, on parle de programmes en général, mais si vous enlevez les séries américaines, c'est désespérant de
alors,
voir...
Alors, selon les chiffres du CSA, la place des plus riches, les CSP+, les catégories socio-professionnelles les plus élevées, représentent 27% des Français et elles occupent 74% de la place à la télévision. C'est assez spectaculaire en effet. 17% de personnes vues à la télé sont non blanches, selon la formulation du CSA.
Et encore une fois, je n'oublie pas... ceux qui sont en situation de handicap, qui se comptent par millions dans ce pays et qui sont totalement invisibles, je n'oublie pas non plus...
0,7% de personnes atteintes de handicap dans les médias.
Oui, mais beaucoup plus dans la population. Et je n'oublie pas non plus les enfants d'agriculteurs. Par exemple, à La Chance, nous accompagnons, on a un dispositif qui permet d'accompagner des enfants qui sont dans des zones rurales, des étudiants qui sont dans des zones rurales isolées, qui veulent préparer les concours des écoles de journalisme comme les autres et qui réussissent très bien.
A-t-on besoin de venir de la campagne pour faire un reportage sur le malaise agricole ?
Heureusement, non. En revanche, ce que me disent, et c'est intéressant, hein, ce que me disent les patrons de journaux, notamment dans la presse quotidienne régionale, ce que me disent les chefs de service, les rédacteurs en chef, c'est que les anciens étudiants de La Chance, comme par hasard, j'ai envie de dire, à la conférence de rédaction du matin, eh ben, ils n'ont pas les mêmes idées que les autres. Ils n'ont pas les mêmes idées que les autres. Et évidemment qu'ils n'ont pas les mêmes idées que les autres, puisqu'ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas le même vécu que les autres.
Je voudrais vous faire écouter une transfuge de classe. C'est elle qui se présente ainsi. Khedija Zerwali est journaliste à Mediapart. Elle est en contrat d'alternance. Ses parents sont ouvriers agricoles. Et elle a raconté dans un podcast audio son impression d'avoir trahi sa classe.
J'ai appris que j'étais pauvre en rentrant à l'école supérieure de journalisme de Lille. Première école de journalisme en France.
Ah.
C'est l'élite. On va te voir à la télé ? Si on ne te voit pas à la télé, moi ça m'intéresse pas. Hein. Pour entrer dans cette école, il faut passer un concours. Actu, logique, grammaire, anglais, reportage. La bourgeoisie, ça s'attrape et je le sais. Et moi, j'ai beau me battre, tu vois, la vraie bagarre de toutes mes forces avec mon système immunitaire de prolétaire, eh ben j'y arrive pas. Je ne suis plus prolo. Et en même temps, j'appartiendrai jamais à leur monde, à leur caste. Parce que je suis pas de Paris, parce que j'ai pas leur thune, parce que j'ai pas leur culture, parce que j'ai pas les mots. Et puis parce que je veux pas. Surtout, je veux pas. Moi, ce que je veux, c'est que quand je rentre chez moi, papa continue de me dire...
Moi, tu es ma fille. Moi, je vois pas que t'as changé de comportement. Tu es toujours pareil, tu t'habites toujours pareil.
Khedija Zerwali, journaliste à Mediapart. Le problème, Marc Epstein, n'est-il pas que les journalistes soient considérés comme faisant partie de la bourgeoisie aujourd'hui ? L'échec collectif n'est-il pas précisément à cet endroit ?
Si, bien sûr. Et ce discours, il peut passer pour populiste ou vaguement révolutionnaire. Mais ce sont des choses très banales hein, dont on parle. Moi, quand je parle à des gens qui sont un peu plus âgés que moi, ils me disent que dans les années 50, dans les écoles de journalisme, il y avait des enfants d'ouvriers, on pouvait rentrer facilement. Tout comme il y avait davantage d'enfants d'ouvriers, et d'ouvriers d'ailleurs, sur les bancs de l'Assemblée nationale. On s'est perdu en route, si vous voulez. Et je pense qu'il faut revenir au bon sens. C'est-à-dire que pour être un bon journaliste, c'est ce qu'on disait d'ailleurs autrefois. Il faut avoir grosso modo les mêmes qualités qu'un flic. C'est-à-dire qu'il faut, comprendre rapidement une situation, savoir l'analyser, savoir la raconter, savoir enquêter dessus aussi.
Dans cette expression transfuge de classe, il y a aussi l'idée d'un mouvement qui est dans un seul sens. On quitte une classe pour une autre et on n'est plus de sa classe d'origine, Marc Epstein. Finalement, le journaliste issu de milieux populaires, est-ce qu'il se sent bourgeoise pour toujours en devenant journaliste aujourd'hui ?
Il faudrait poser la question aux intéressés, mais je crois surtout qu'il est important pour ceux qui nous lisent, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent, il est important que ce miroir que nous leur tendons sur ce qui se passe en France, sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, que ce miroir, encore une fois, ne soit pas déformant, qu'il soit plus proche de ceux qui nous lisent, qui nous écoutent. Parce que sinon... on nous fera un procès justifié, à mon terme, de manque de légitimité. de manque de représentativité, et ça, c'est tragique.
Merci beaucoup. Marc Epstein, président de La Chance, quel joli titre. Association La Chance pour plus de diversité dans les médias. Dans un instant, ce sera Grand Bien Vous Fasse avec Ali Rebéi.